nous entrons donc dans une partie que j'ai intitulée Vers une intériorité chrétienne, travaillée par l'Évangile. Il ne suffit pas simplement d'éduquer à l'intériorité, c'est l'intériorité qui va ouvrir à cette conversation que Dieu est venu nouer avec chacun de nous, comme le rappelait notre évêque ce matin. La caractéristique du chrétien, c'est de mettre au cœur de sa vie la personne de Jésus-Christ, telle qu'il la découvre dans les récits des évangiles. Et c'est ce que nous allons un petit peu regarder là maintenant. D'abord, nous laisser vraiment émerveiller par la figure d'humanité que Jésus vient nous donner. Cette figure d'humanité du Christ. D'abord, il prend soin des besoins de ceux qu'il rencontre. Et il accueille sans aucune discrimination ceux qui viennent à lui, dans une proximité étonnante. Sa caractéristique, c'est il se fait proche. Il est proche. Proche des plus pauvres, proche de ceux que la société de son temps a tendance à marginaliser, les étrangers, les enfants, les femmes. Proche, mais avec un immense respect de chacun. Des pécheurs, des publicains, des prostituées. On ne se lasse pas de percevoir son hospitalité. En lui, il y a toujours cet espace intérieur pour accueillir l'autre, et l'autre dans sa différence. Proximité, réponse aux attentes et aux besoins, il guérit, il restaure, il chasse ce qui empêche les hommes et les femmes de devenir eux-mêmes, et que l'Évangile nomme sous le nom des démons. Un homme possédé d'un démon dans l'Évangile, c'est toujours quelqu'un qui est à la fois esclave de lui-même et hors de lui-même, à l'étroit en lui-même, empêtré, et en même temps hors de lui-même dans des visages d'emprunt, des images, etc. Et quand Jésus chasse un démon, il rend l'homme à lui-même, lui permettant de s'habiter simplement lui-même dans la vérité. Au fond, il ne fait rien d'autre que de communiquer la vie qui l'habite. En étant, moi j'aime beaucoup cette expression, contagieux de santé. Voilà. Généralement, la contagion, c'est pour une maladie. Mais au contact du Christ, c'est la vie, c'est la santé qui est restaurée. Et dans une expérience aussi que font ceux et celles qui le rencontrent, qu'il les libère de leur peur de vivre. Va! Prends ton grabat et va. Il y a en chacun des petites peurs de vivre, parfois sournoises, parfois cachées. Le contact du Christ et la proximité du Christ libèrent des peurs de vivre. Autre émerveillement de la figure d'humanité qu'il nous déploie, c'est que il vit avec tous, justement, des relations de désir. D'abord, ses paroles et ses gestes réveillent le goût de vivre et les dynamismes qui sont enfouis en chacun. Ça, c'est la manière du Christ. Vous voyez, à Zachée, qui était pourtant un peu voleur sur les bords, il ne commence pas par dire « Dis donc, Zachée, tu es filou ». Il commence par lui dire « Zachée, descends vite, je veux aujourd'hui demeurer chez toi ». C'est-à-dire qu'il rejoint en chacun le désir de grandir qui est en lui, les sources vives qui sont en lui, comme des dynamismes, comme des semences cachées. C'est tout le discours des paraboles. En chacun, en chacune, il y a des semences, et la foi du Christ, c'est que ces semences ne peuvent pas ne pas porter du fruit, même s'il y a quelques accidents de parcours. Il y a des graines qui se perdent, d'accord. Mais le propre du semeur, c'est de croire qu'il y aura une moisson. Et le propre du Christ, c'est de croire que des forces vivantes, des forces vitales, ont été répandues dans le cœur de chacun, qui ne peuvent pas ne pas porter du fruit. C'est sa foi. Et c'est ça qu'il vient dire et révéler. Il le fait en entrant avec chacun dans une relation unique. Il prend à part le sourbègue, il fait venir devant la femme au flux de sang qui avait touché son manteau par derrière. Il relève le lépreux qui tombait à ses genoux. C'est toujours unique, c'est pas en série. Il porte sur chacun un regard unique. Et, ce qui est extraordinaire, il ne cherche pas à récupérer pour lui. Nous l'avons vu, au lépreux guéri, va. Au paralytique guéri, prends ton grabat, retourne dans ta maison. À l'homme qui avait été possédé de démons légions et qui voulait le suivre, Jésus lui dit non, va chez les tiens. Va leur annoncer tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il ne cherche pas à récupérer pour lui. On dirait même que dans ses guérisons ponctuelles, il ne cherche pas à faire des disciples, mais il en appellera certains pour être disciples. Voilà. Il y a une liberté du Christ dont on a à se laisser émerveiller. Une liberté. Une liberté dans sa manière, une liberté dans son allure, et c'est une liberté qui libère. Voilà. Le contact avec lui libère et donne envie d'exister. Et d'exister en ayant soi-même le courage de s'accepter tel qu'on est. Voilà. Un autre élément de sa qualité d'humanité, c'est qu'il est cohérent avec lui-même de A à Z. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit et il n'y a aucun hiatus, aucun écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, à la différence de nous. Quelquefois, on dit des choses puis on ne les fait pas. Voilà. Non mais c'est vrai. Ses paroles disent ses gestes et ses gestes confirme la parole qu'il a dite, voilà, sans écart. Pas de mensonge, ni apparence, ni masque. Hein? Au fond, le Christ, il se révèle à nous simple, au sens fort du mot, c'est-à-dire sans pli. Voilà. Il n'y a pas de pli. Authentique dans toutes ses rencontres. Et même quand ses adversaires vont s'acharner contre lui au cœur de son procès. Jusqu'au bout, il ne se laisse pas influencer et il n'hésite pas à remettre en question quand c'est nécessaire. Au fond, son oui est un oui et son non est un non. C'est tout. Et ce qu'il y a d'admirable encore, c'est que il est vrai avec lui-même et il fait la vérité autour de lui. Il fait la vérité. Il aide l'autre à se mettre dans sa vérité. À l'aveugle de Jéricho, un aveugle, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On pourrait dire que c'est une question vraiment inutile. Mais que cet homme puisse se mettre dans sa vérité. Sa vérité, c'est un manque que je vois. Vous voyez ? Il met l'autre dans sa vérité, mais pas en pointant du doigt dans un jugement, dans une culpabilisation, mais dans une manière qui éveille le désir d'être vrai. Et du coup, de se laisser rejoindre par lui. En même temps, il ne craint pas de mettre à jour les cœurs divisés, le mensonge qui peut habiter certaines attitudes pharisiennes, on dirait. Et il ne craint pas de dire « sépulcre blanchi, race de vipères ». Fallait quand même l'entendre, hein. Quand certains font peser sur d'autres des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes. Il met l'autre dans sa vérité. Et c'est dans cette même attitude qu'il en choisit certains et qu'il les invite à le suivre et à devenir ses disciples, ses compagnons de route. Il y a Simon, André, Jacques, Jean, les 12, mais il y a aussi quelques femmes dont l'évangile de Luc se plaît à nous dire qu'elles le suivaient et qu'elles l'accompagnent de la Galilée à Jérusalem en le servant. Pour ses disciples, quelque chose de tout nouveau va advenir. C'est que, au fond, ils vont tous et toutes faire de Jésus lui-même la référence première de leur existence. Devenir compagnon. Et compagnon de tous les instants. Et ce qui est caractéristique des disciples, c'est que Jésus va les éduquer, va les former, pour qu'ils puissent à leur tour dire et faire ce que lui-même seul d'abord dit et fait. Ça nous donne, là encore, de nous émerveiller. Les disciples que nous sommes aujourd'hui, maladroitement, toujours un peu de travers, mais quand même quant au désir, le Seigneur nous confie de dire et de faire ce que lui-même disait et faisait. Et on peut s'émerveiller de la grandeur de cette mission. Et oser y croire, vraiment. Ce que Jésus vit avec ses disciples sur les routes de Galilée va leur permettre d'intérioriser de manière très personnelle sa propre manière d'être. Et c'est eux qui vont être la figure des chrétiens d'aujourd'hui. Quelle est leur caractéristique propre ? Choisir le Christ et en faire la référence de sa vie. Entrer dans une relation de prière et d'intimité personnelle avec lui. Il n'y a pas de disciple sans cette relation de réciprocité, de paroles échangées. Poser des gestes et dire des paroles qui délivrent, qui restaurent à sa manière, à lui, en laissant travailler en soi la qualité d'humanité qui est la sienne, de respect, de douceur, de non-violence. Au fond, cette attitude, c'est l'époque où nous pouvons en parler avec beaucoup de goût, cette attitude de diaconie pour le monde. Le Christ a vécu cela. Bien sûr, ses disciples ont vécu cela à sa suite. Et nous sommes invités, particulièrement cette année, à entrer dans ce dynamisme-là et dans ce mouvement-là. La caractéristique des disciples encore, de l'Évangile et d'aujourd'hui, de célébrer dans des gestes et des paroles qui sont aujourd'hui les sacrements de l'Église, sa présence parmi nous. Et la célébration, ça a toujours une dimension éminemment personnelle, de rencontre personnelle avec le Christ, et une dimension éminemment communautaire et ecclésiale, ensemble, autour de lui. Et enfin, la caractéristique des disciples de l'Évangile et d'aujourd'hui, c'est de recevoir de lui la promesse d'une vie qui traverse la mort. D'oser aller jusque-là. D'accueillir cette promesse. Une vie qui traverse la mort et qui passe par ce chemin de Jérusalem. Vous savez, la mort, c'est pas seulement la grande mort qui nous attend tous, c'est aussi ces petites morts quotidiennes qui sont les nôtres. Nous vivons tous des petites morts quotidiennes. Et plus nous les vivons à la manière du Christ qui a traversé la mort, en se donnant sans rien retenir pour lui-même, plus nous nous préparons à accueillir cette vie qui traverse la mort. Encore un tout petit mot de cette manière du Christ. Jusqu'au bout, dans le rejet, dans l'humiliation, il ne retient rien de ce qu'il est pour lui-même. Le mot de la passion dans les quatre évangiles, c'est « il se livre ». Voilà. Il se livre. En prenant la dernière place, celle du serviteur. Et une chose que je trouve toujours très frappante dans l'Évangile, aucun des évangiles n'insiste sur les souffrances physiques de Jésus. Mais ce qui est souligné, ce sont les humiliations, le rejet, le mépris. Il meurt comme un indigne et dans l'indignité. Or, jusqu'au bout, il se livre dans la non-violence et sans répondre à la violence par la violence. Qualité d'humanité qui va jusque sur la croix à demander au Père de pardonner. Parce que ceux qui le condamnent ne savent pas ce qu'ils font. C'est inouï. C'est sans mesure. On ne se lasse pas de le regarder. Contagieux d'humanité. Et le dernier point que j'aimerais un tout petit peu souligner dans cette partie, c'est que sa relation à Dieu, à son Père, est elle aussi connotée par cette attitude de désir. Vous voyez ? À plusieurs endroits de l'Évangile, il nous est dit que le Christ prie son Père. Au moment du baptême, avant de choisir les 12 dans l'Évangile de Luc, après le partage des pains, avant la confession de Césarée, quand il meurt sur la croix. Le secret de son extrême humanité, c'est sa relation au Père et l'intimité qu'il noue avec lui. Toute son existence quotidienne est inspirée par cette relation, est modelée de l'intérieur. Et au fond, du coup, sa relation au Père suscite les paroles même de Dieu sur ses lèvres et les gestes de Dieu par ses mains. En lui, Dieu se rend visible. Et il communique sa vie, la vie de Dieu. Et il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que du coup, pour les premières communautés chrétiennes, Jésus ne révélait pas seulement une manière d'être humaine, extrêmement humaine, comme dira le Concile, mais l'humanité du Christ nous dit et nous donne Dieu. Voilà. Elle nous révèle la manière même de Dieu, la manière dont Dieu règne. Il règne dans la douceur, il règne dans la paix, il règne dans la non-violence. Et la mission du Christ, c'est d'instaurer cette manière-là d'exister parmi les humains, de nous ouvrir ce chemin. Et chaque fois que nous empruntons un tant soit peu ce chemin, eh bien, nous installons dans le monde la manière même de Dieu. C'est ça, établir le royaume de Dieu sur la terre. Voilà. C'est grandiose, hein, quand même, notre mission. C'est vrai. Alors, comment, du coup, à partir de là, conduire à la prière chrétienne dans cette perspective de la suite de Jésus et de l'entrée dans sa manière d'être, de l'initiation à sa manière. C'est important d'éduquer à la prière. Voilà. Ça s'apprend. Hein ? Ça s'apprend et ça s'apprend à partir de personnes qui elles-mêmes l'ont apprise d'autres. C'est la transmission telle que nous l'avons vécue ce matin et l'expérience de prière qui est la vôtre. Vous l'avez chacun reçu d'autres. Voilà. Donc ça s'apprend pas seulement dans des livres, ça s'apprend en communauté. Ça s'apprend par des personnes que l'on regarde, que l'on entend, voilà, que l'on suit. Et ça s'apprend à travers des petits moyens, des chemins, disons. D'abord, un chemin privilégié, bien sûr, c'est de lire et de prier l'Évangile en groupe. En groupe. On peut le prier seul et le lire seul, on le fait aussi. Mais le groupe, c'est-à-dire cette petite cellule d'église, même si elle est temporaire, une fois par mois, une petite cellule d'église se retrouve pour lire et prier l'Évangile. Et intérioriser, du coup, la manière du Christ. Vous le savez, quand on lit l'Évangile, on ne lit pas simplement une histoire du passé. Les Évangiles ne racontent pas seulement des événements qui se sont passés il y a 2000 ans entre Jésus et ses disciples. Lire l'Évangile ensemble, c'est faire advenir au milieu du groupe la présence réelle de Jésus-Christ. Voilà. Parmi ceux et celles qui le lisent ensemble. Faire advenir sa présence. Il se rend présent pas seulement dans les paroles des récits que nous lisons, mais aussi dans les paroles que le groupe va échanger sur les récits. Il se donne dans l'entre-deux de nos relations. Il se donne par nos paroles, par nos échanges. Là, la présence d'un animateur, c'est vraiment aidant et important. Pourquoi ? Parce qu'il va, c'est pas lui qui va faire advenir la présence du Christ, non, bien sûr que non. Mais il va moduler un peu et permettre que ça se passe au mieux. D'abord, en créant le climat. Un climat d'écoute, un climat de respect. Un climat où la parole de chacun a sa place et a le droit d'exister. Et en même temps, en régulant de temps en temps les trop silencieux ou les trop bavards. L'animateur, il va ensuite aider à entrer dans la rencontre que l'Évangile rapporte, qu'on prenne le temps de regarder les personnes, regarder ce que fait Jésus, regarder ce qu'il dit, regarder les réactions, entendre les paroles, regarder la scène et entrer dedans. Vous voyez, entrer dedans, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et là, une légère animation aide. Quelquefois, il y a des questions qui viennent. Alors, l'animateur, il peut aider à repérer si c'est des questions qui vont aider le groupe à progresser, enfin, à rencontrer le Seigneur, ou si c'est des questions qui sont un peu aux marges, quoi, et qui font dévier. Et puis, on revient. Et quand on a pris le temps de repérer comme ça comment le récit est construit, comment on se parle, comment on s'entend, qui regarde, quelles sont les actions, alors on va entrer dans un temps d'intériorisation personnelle et communautaire, où chacun peut d'abord se dire à soi-même, au fond, dans cette rencontre, qu'est-ce qui me parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me rejoint ? Moi, je vois surtout telle chose. Ou moi, je vois surtout, j'entends surtout telle parole. Et là, nous faisons l'expérience que le Seigneur rejoint chacun de manière unique. L'un est frappé par telle chose à cause de son histoire et de ce qu'il vit. Un autre par telle parole à cause de ce qu'il vit. Vous voyez ? Chacun est rejoint, comme dans l'Évangile, de manière unique. Et c'est bon de se le partager. Quelle découverte ! Qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce que ça éclaire de ma vie ? Qu'est-ce que je savoure particulièrement ? Et puis, cela permet d'entrer dans un moment de prière proprement dite. Et là, comme nous l'avons fait, veillez un peu au cadre, apporter une bougie, apporter des fleurs, mettre la parole au centre, voyez ? S'aider, parce qu'on a des yeux et des sens, et qu'il faut les utiliser, et si c'est le Capharnaüm et le désordre et le bruit, on ne saura pas intérioriser et prier. Alors prendre le temps, voilà. C'est mieux que ce soit bref, mais qu'on ait pris le temps de déployer une toute mini-liturgie et célébration. Voilà. Avec, donc, ces petits moyens, un petit silence, un refrain, un moment personnel de prière. Voilà. Et on peut terminer par la prière de l'Église, comme nous l'avons fait, le Notre Père. Vous sentez à la fois comme c'est simple, et en même temps, comme c'est plein de petites attentions délicates. Et que notre rôle, à nous tous ici, c'est de veiller à ces petites attentions. Pour accompagner ce désir de la rencontre et de la relation personnelle. Parce que c'est ça l'enjeu. L'unique enjeu, mettre en route vers une rencontre personnelle, pour une rencontre personnelle, qui peut se vivre au sein d'un groupe, mais en même temps, chacun pour soi, d'une manière unique. Et alors, quand on vit cela, vous voyez, on n'est pas d'abord du côté de « Oh, maintenant, je connais cette histoire, je la sais. » Non. On est du côté du goûter, sentir, apprécier intérieurement, laisser résonner et éprouver que ça me parle, ça me rejoint. Et que le Seigneur se donne dans une rencontre unique et personnelle. Nous ne pouvons que créer les conditions, c'est le Seigneur qui se donne. Mais créer les conditions, c'est très important. Alors, voilà, lire et prier l'Évangile en groupe, ça peut se faire dans des moments de dialogue contemplatif, de prière avec une œuvre d'art. Combien de fois dans les nouveaux modules de catéchèse, on va regarder un tableau, une icône, voilà. Et entrer dans la rencontre du Christ à partir de ce que nous regardons, ou à partir d'un chant, d'une musique, entrer dans des paroles, voilà, qui donnent d'oser une rencontre, parce qu'elles mettent déjà sur ce chemin. Au fond, quelques petits moyens. Écoutez. C'est des moyens qui passent par les sens, évidemment. On n'a que ça pour entrer en relation. Nous, entre humains, c'est toujours par les sens. Écoutez une musique, écoutez un chant. Voilà. Avant de chanter, entendre les paroles et les laisser résonner. Apprendre à regarder, à observer, à admirer. Vous voyez ? Admirer comme quelque chose est beau, comme un tableau, comme une statue, comme un paysage est beau. Admirer, ça, c'est déjà ouvrir à la prière. Les projections peuvent aider aussi de ce domaine. Chanter, bien sûr. Hein? Chanter. On dit chanter, c'est prier deux fois. Oui. Il y a les gestes. Voilà. Des gestes simples. Pourquoi est-ce que nous avons pris l'habitude dans les Eucharisties d'ouvrir nos mains pour le Notre Père? C'est simple. Et entrer dans ces démarches où le corps n'est pas trop guindé, mais peut participer de la prière. Et puis, nous faisons aussi cette expérience, parce que nous l'avons tous vécue, quand quelqu'un, dans un petit groupe, ose prendre la parole pour prier lui-même un peu au nom du groupe, dire merci, demander pardon, confier, mais sous forme de prière. Qu'est-ce que ça aide? Et qu'est-ce que ça fait entrer soi-même en prière? Alors, il y a des petits moyens, j'ai envie de dire, du toucher, enfin, des petits moyens. Par exemple, oser un petit coin de prière dans une salle où on fait la catéchèse, chez soi, dans une école, dans un petit coin, hein, où on va l'habiter. C'est-à-dire que cet espace qu'on veut en soi, on va aussi le faire autour de soi. Un coin prière. Ou bien le petit carnet top perso. Vous savez, ce petit carnet très très précieux quand on est jeune. Hein, pas seulement quand on est jeune, hein, y a des adultes pour qui c'est aussi tout à fait important. Où je peux écrire moi-même quelques mots. Quelques mots sur une attitude de l'Évangile que j'ai découverte. Ou une petite prière. Ou Si je relis un événement, ah oui, j'étais très heureux quand on a fait cette marche-là. Et je veux l'écrire pour m'en souvenir. Vous voyez, tous ces petits moyens, ils visent à ce que, en nous, les différentes dimensions de nous-mêmes s'unifient. Voilà. Le travail d'intériorisation, c'est toujours un travail d'unification, d'essence, du cœur, de l'intelligence. Ça passe par le silence et la solitude. Intérioriser, s'unifier intérieurement. Et tout ce qui peut favoriser ces conditions-là sont déjà des chemins vers la prière et peut-être même déjà des prières. Voyez. Qui sait, dans le cœur d'un jeune, quand il fait silence, s'il n'est pas en train de rejoindre la présence du Seigneur en lui. Qui le sait ? Et il est bon que nous ne le sachions pas. Voilà. Et qu'on ne cherche pas à le savoir. Alors simplement, pour terminer, au fond, il y a tout un chemin qui peut éduquer à la prière. Et qui passe par, j'ai envie de dire, des pédagogies, des moyens, mais surtout, simple. 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 À la mesure de ce que nous avons pu chacun nous-mêmes déjà expérimenter et qui nous a ouvert un chemin pour aller dans ce sens-là. Alors, c'est pas tout à fait fini. Je vous invite à reprendre le petit papier rose que vous aviez ce matin. Alors. Et si vous pouviez, dans les quelques minutes qui nous restent, écrire, noter ou dessiner, qu'importe, hein. Au fond, après cette matinée que nous avons vécue, une matinée qui a commencé par un petit air de flûte et de guitare, toute une entrée dans la prière et les réflexions que nous nous sommes faites, est-ce qu'il y a, par rapport à ce que vous aviez écrit, quelque chose qui s'est déplacé, qui s'est éclairé, qui est plus installé et plus ferme en vous. Voilà. Eh bien, vous le notez. Un déplacement, un éclairage, une découverte, une conviction. Tout cela, nous allons continuer de le redéployer cet après-midi dans les 19 ateliers. Voilà. Voilà. Merci Odile. Je crois que nous étions venus en attendant beaucoup.